Pierre Imbert, rédacteur au Monde Diplomatique, l'invité de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM, est intervenu dans le cadre de l'UMA Café de Nantes sur le thème « La presse sous pression ». Depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, il y a 18 ans, est-ce qu'on peut dire que ça s'est dégradé ou on pose finalement le même constat ?
Bon, depuis 18 ans, on a vu apparaître principalement deux choses. Les chaînes d'information en continu qui se sont multipliées, puisqu'on s'était vu en 2005, il y en a plusieurs qui ont été créées depuis. Les réseaux sociaux, avec lesquels ces chaînes d'information en continu forment une espèce de synergie pour moins rendre compte de l'actualité que produire l'actualité. Puisque l'idée est d'inviter des gens, de les presser, de répondre à des questions qui vont susciter des petites phrases, de reprendre des petites phrases, lesquelles sont saucissonnées, envoyées sur les réseaux sociaux, d'autres responsables y répondent, etc. Et ce cycle va produire l'actualité plutôt que d'en rendre compte avec cette prédominance des émissions de plateau où les experts bavardent avec un fond de reportage de terrain où des caméramans filment des choses dont ils ne saisissent pas toujours le sens. Vous verrez dans le prochain numéro du Monde Diplomatique une citation d'un grand reporter que tu connais sans doute, qui s'appelle Richard Kapuscinski, qui a arpenté la plupart des théâtres de conflits du monde et qui raconte comment à Mexico, un de ses copains journalistes filmait une scène d'émeute de rue. Il lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe là ?» Et l'autre dit « J'en ai aucune idée. En fait, on m'a demandé de filmer ça, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, c'est en régie qu'ils s'occuperont de l'analyser. » Je crois qu'on en est un petit peu là, cette espèce d'aliénation des journalistes par rapport à la production de l'information et sa captation quasi monopolistique par les directions éditoriales, les chefferies éditoriales, qui, elles, répondent à d'autres préoccupations que celles d'une information de qualité.
J'ouvre une parenthèse, vous m'avez répondu en me tutoyant. On s'est vu une fois, alors peut-être que c'est une connivence confraternelle, mais si c'est le mode « tuez-vous », c'est pas neutre.
Non, c'est sûr. Et de fait, on s'était rencontrés, si je me souviens bien, quand j'avais publié un bouquin critique sur le quotidien Libération. Et à l'époque, moi, je travaillais pas mal dans la presse alternative. Et toi, tu travailles pour une radio alternative, c'est-à-dire qui n'est pas de médias dominants. Et peut-être que ça crée en effet une certaine connivence, celle de s'opposer à la production de l'information marchande.
C'était pour dire que voilà, on est libre et puis moi je pose mes questions.
Mais on se connaît pas et on ne s'est pas vu depuis 18 ans. Et je ne t'ai même pas payé une bière, donc il n'y a aucune connivence.
Alors, il y a un personnage qui n'a pas été cité, c'est Patrick Lelay, qui avait théorisé.
Oui, qui avait théorisé l'idée selon laquelle ce que nous vendons, c'est du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Propos tenu en 2004. Et je crois qu'il illustre bien la limite de ce que peut faire le marché pour l'information. C'est-à-dire produire une marchandise. Or, nous avons besoin d'une information de qualité, c'est-à-dire qui ne soit pas une marchandise, ou qui ne soit pas seulement une marchandise, pour former nos jugements politiques. Si l'information est une marchandise, si elle est produite comme une marchandise, alors il faut qu'elle soit produite à moindre coût. Conséquence, multiplication des émissions de plateau, diminution de l'information internationale qui coûte cher, et multiplication du bavardage avec des experts. Si nous voulons produire une information de qualité, il faut bien d'abord se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a deux conceptions fondamentalement différentes de l'information qui s'opposent. La première, on pourrait l'appeler la formation Pierre Palmade. Pierre Palmade, parce que tu ne sais peut-être pas, mais les déboires de Pierre Palmade ont été plus médiatisés en février dernier que le tremblement de terre en Turquie, qui a quand même fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Donc l'information Pierre Palmade, c'est quoi ? Enfin, lui n'y est pour rien. Mais l'information Pierre Palmade, c'est donner encore plus d'importance à des choses qui déjà intéressent spontanément les gens. Alors, avantage, ça coûte pas cher. Les médias dominants adorent, parce que ça fait de l'audience. Okay ? Il y a une autre conception de l'information, qu'on pourrait appeler la conception monde diplo, pour se flatter un petit peu, qui consiste à essayer de rendre intéressantes des choses qui sont importantes, mais auxquelles on ne s'intéresse pas spontanément. Par exemple, je ne sais pas, la situation en Afghanistan, la situation dans un pays qui demain sera peut-être en conflit, la situation au Soudan, bon, la situation au Yémen. Voilà, le Yémen, pays en guerre, une guerre soutenue par l'Occident, Un bilan qui actuellement oscille entre 300 000 et 500 000 morts, déclaré première catastrophe humanitaire par le secrétaire général de l'ONU. Traitement dans les médias, extrêmement faible. Donc, comment fait-on pour produire une information de qualité qui rende intéressante des choses importantes plutôt que donner de l'importance à ce qui nous intéresse déjà? Eh bien, on sait maintenant depuis un siècle et demi, grosso modo, c'est pas une nouveauté ce que je raconte, on sait depuis un siècle et demi qu'il y a deux dangers qui menacent l'information. La censure d'État, l'État, le ministre de l'Information dans les années 60, ou l'État qui va interdire un certain nombre de... qui va corseter l'information. Et la censure du marché, c'est-à-dire l'information Pierre Palmade, où on va dire aux journalistes, faites ce qui intéresse les gens, plutôt que de leur dire ne parlez pas de ça. Mais grosso modo, ça revient à peu près au même. Donc on connaît ces deux dangers, et on les connaît depuis des décennies. Comment faire une institution qui n'appartienne pas à l'État, ou que l'État ne contrôle pas, et qui ne soit pas dépendant du marché? Il y a un économiste qui s'appelle Bernard Friot, que tes auditeurs connaissent peut-être déjà, puisque...
Ah oui, je l'ai interviewé trois fois.
Ah ben voilà. Qui a donné la réponse. Alors là, je vais faire le vil plagiaire de Bernard Friot, ou son perroquet, je choisirais. Grosso modo, Friot dit, mais en fait, cette institution, on l'a déjà sous les yeux, c'est la sécurité sociale. Ça n'appartient pas à l'État, c'est quelque chose qui est très peu connu, mais les caisses de sécurité sociale, entre 46 et 64, elles sont gérées par les travailleurs eux-mêmes. C'est des gens, souvent des syndicalistes CGT, qui n'avaient pas de diplôme, etc., qui ont créé ce truc qui a été à l'origine de la construction de la quasi-totalité du système hospitalo-universitaire français. C'était colossal. Et ça ne passe pas par Bercy. Bercy, ministère de l'économie et des finances, le bastion de l'orthodoxie budgétaire, de l'austérité, auquel il serait totalement irresponsable de confier la production ou le financement d'une information de qualité. Tout projet d'une information de qualité qui serait en quelque sorte sanctionné par les verdicts de Bercy et Mornay. Donc on ne passe pas par Bercy, on passe par le même système que celui de la cotisation sociale. C'est un système très robuste, ça administre jusqu'à un tiers du PIB, c'est colossal encore aujourd'hui. Il y a eu des crises de l'industrie, il y a eu des crises financières, il y a eu des cracks boursiers, il n'y a jamais eu de crack de la Sécu. La Sécu, ça fonctionne, c'est extrêmement robuste. Eh bien, pour ne pas dépendre du marché, pour ne pas dépendre de l'État, on fait une cotisation information, c'est-à-dire on crée une institution qui sera cotisée. Alors, c'est tout petit, on a fait des calculs, tout le schéma est dans le monde diplomatique, c'est une proposition qu'on avait faite depuis plusieurs années et qui nous permet, je crois, d'avoir au moins une ligne de mire, de se dire, tiens, l'information, c'est pas quelque chose de neutre, l'information, on en a tous besoin. On le disait à l'instant, pour former nos jugements politiques, la France, un pays qui s'est souvent engagé dans des conflits à l'étranger, s'est engagé au nom du peuple français. Pour que nous puissions décider, il faut qu'on soit bien informés. Et je crois qu'il y a une chose qui s'est perdue en cours de route, et ça c'est un vrai mystère, parce que là il vient d'avoir un mouvement social colossal pour défendre les retraites. Il y a eu des mouvements sociaux phénoménaux pour défendre la sécurité sociale, pour défendre l'éducation nationale. Et il y a une chose qui s'est perdue en route, c'est quel est le dernier grand mouvement social où des millions de gens ont battu le pavé pour défendre une information de qualité? Je pense que l'information de qualité, nécessaire pour former nos jugements, pour agir en collectivité, pour avoir une espèce de souveraineté individuelle et collective sur notre destin commun, eh bien, il faut se mobiliser pour l'obtenir. D'abord, elle nous est due. Ce n'est pas une conquête qu'on devrait faire. C'est quelque chose qui nous est dû et qui ne nous est pas fourni. Préambule à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté d'opinion, la diversité des opinions, ce n'est pas seulement des lettres sur du marbre. Il faut aussi des moyens pour le faire, pour que des droits théoriques deviennent des droits pratiques. Il faut des moyens. Et pour ça, il faut se battre politiquement. Alors, grand mystère, il y a des mobilisations sur tous les sujets, mais pas sur l'information. Je crois que la solution, elle est là. Techniquement, ce qu'on a proposé, ce service commun de l'information, la cotisation information, ça peut tout à fait être amélioré, on peut faire d'autres propositions. Mais une chose est certaine, c'est que si on ne considère pas la question de l'information comme une question politique, c'est-à-dire politique au sens noble, c'est pas politique partisan, c'est politique au sens où c'est une question qui est justiciable d'une délibération collective et d'une mobilisation. Et bien, si on ne le fait pas, on se prive d'un service d'intérêt public qui nous est dû et qui est nécessaire.
Pierre Imbert, rédacteur au Monde Diplomatique, est l'invité du magazine.
Mais pratiquement, on la prélève comment et chez qui, cette cotisation information ?
Pour l'instant, la cotisation, c'est les gens qui travaillent, qui sont salariés, et la quasi-totalité des gouvernements depuis le début des années 80 s'emploient à diminuer les cotisations sociales parce que c'est le coût du travail, le fardeau qui pèse sur les entrepreneurs. Vous connaissez le discours qui nous est tenu en permanence depuis une quarantaine d'années. La vérité, c'est que la cotisation, c'est un morceau du salaire qui est socialisé. Et il est payé par le patron, par l'entreprise. Et c'est un morceau du salaire. Donc plutôt que ce salaire soit versé individuellement, il est socialisé et il est affecté dans une caisse, la caisse information, là, dans le cas d'espèce, qui est dédiée à produire un bien ou un service collectif dont nous avons tous besoin et dont ni le marché ni l'État ne sont capables de le rendre de manière correcte. Donc c'est prélevé, un peu comme sur la fiche de paie, c'est cotisation vieillesse, etc. Ben là, il y aurait une cotisation information qui serait de 1 et quelques pourcents, enfin, c'est vraiment que dalle. En fait, les montants sont assez faibles, parce que pour avoir une information de qualité en matière de presse écrite, c'est-à-dire, grosso modo, les médias en ligne et les médias imprimés, ce ne sont pas des montants colossaux. D'ailleurs, l'État aide déjà, avec des montants très importants, cette presse-là. Et je crois que les critères pour déterminer cette aide de la collectivité qui serait rendue par la cotisation, ce serait d'abord l'interdiction absolue, comme l'ont fait les résistants en 1944, le gouvernement provisoire de la République française, l'interdiction de la constitution de groupes de presse. Un propriétaire ne peut pas posséder plus d'un journal, c'est quelque chose d'évident. Et puis l'autre chose, c'est la publicité. La publicité, c'est l'inverse de l'information, c'est quelqu'un qui paye pour avoir son point de vue représenté ou son message diffusé. Et la présence de publicité dans les médias est un contresens. Donc il y aurait au moins ces deux critères, je crois, qui seraient absolument décisifs pour qu'une information soit dite d'intérêt public.
Et qui se chargerait de dire vers où vont ces sommes récoltées pour soutenir quel type de médias ? C'est une question fondamentale aussi.
C'est une question fondamentale. Là, il y a deux choses qui se superposent. D'abord, il y a des critères aujourd'hui. Il y a déjà une presse qui s'appelle la presse d'intérêt général et politique, qui représente à peu près, 500 titres. C'est déjà important. Aujourd'hui, il faut savoir qu'entre 4 et 5 000 publications touchent des aides d'État. Donc il y a le journal de Mickey parmi ces publications. Alors, je ne vais pas du tout critiquer le journal de Mickey, mais la contribution au débat public, ce n'est pas exactement la même que le monde diplomatique.
Oui, mais on pourrait faire passer de l'information auprès des jeunes via le journal de Mickey, mais je plaisante à peine, on pourrait donner un autre contenu aussi.
Oui, c'est un projet, écoute, vas-y, hein. Feu. Je te sens chaud là. Non, pour répondre plus précisément à ta question, je crois qu'il existe déjà des critères objectifs de contribution au débat public, les journaux, les sites d'information générale et politique. Et d'autre part, l'idée c'est que, un peu comme les caisses de sécu, les conseils d'administration de ce service commun de la presse, en ligne ou imprimé, seraient administrés par les salariés eux-mêmes. Et je crois que c'est quelque chose de très important. On oublie que ces caisses de sécu, d'entre 1946 et 1967, elles étaient contrôlées aux trois quarts par les salariés, un quart par le patronat. Si on a une proportion analogue pour les journaux, on aurait une prédominance, un pouvoir donné aux salariés, une forme d'autogestion, qui à mon avis est un modèle vraiment intéressant, quoi. Où les gens qui administrent ces caisses pourraient déterminer quel journal peut bénéficier de cette aide collective issue de la cotisation. Alors il y a la question des lecteurs qui se pose. Est-ce qu'il faut donner ou pas, moi j'ai pas de réponse, au lectorat, aux usagers de la presse, pouvoir de déterminer quel type. Moi j'ai pas de réponse à apporter, il y a du pour, il y a du contre, mais l'idée de ce type de proposition, c'est pas d'arriver comme un paquet cadeau tout fait, c'est quelque chose qui doit s'élaborer. Encore une fois, il est aujourd'hui, il me semble, plus temps de créer les conditions pour concrètement on puisse y arriver, plutôt que de déterminer les détails du projet. C'est-à-dire, grosso modo, il est plus urgent de se mobiliser politiquement pour revendiquer notre droit collectif à une information de qualité avant de parfaire les derniers détails du projet.
Merci à Pierre Imbert, rédacteur au Monde Diplomatique, pour sa libre participation à ce programme réalisé dans le cadre de l'UMA Café de Nantes.